Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée à l'eau. Une thématique bien sûr indissociable du changement climatique, de l'évolution démographique, de l'urbanisation, de l'agriculture et de l'alimentation. Les chiffres sont toujours là pour nous rappeler cette réalité qui veut que près de 4 milliards de personnes ont aujourd'hui besoin d'un meilleur accès à l'eau potable. 1,8 million d'enfants dans le monde meurent chaque année parce qu'ils boivent une eau insalubre ou vivent dans des conditions d'hygiène insuffisantes. Autant de chiffres qui sonnent comme des constats d'échec pour l'humanité. Alors que des coopérations sont possibles, le 21e siècle finira-t-il par être celui de la grande coopération stratégique entre États, les sociétés, les entreprises, les pouvoirs publics, les citoyens et les acteurs privés? La course contre la montre est en tout cas engagée. Regard et analyse avec nos invités. Par téléphone, Gérard Payen, ancien conseiller pour l'eau et l'assainissement du secrétaire général des Nations Unies. Bonjour.
Bonjour.
Patrice Fonladoza, président du think tank Ressources, cercle de réflexion sur les problématiques d'accès aux services essentiels dans les pays en développement, directeur de l'ouvrage Eau, énergie et autres services essentiels, plaidoyer pour une approche intégrée, paru aux éditions Descartes et compagnie. Bonjour.
Bonjour.
Et Alain Bouenet, fondateur de Solidarité Internationale, ONG spécialisée dans l'accès à l'eau et l'assainissement, et dont je signale par ailleurs le site internet défishumanitaireaupluriel.com. Bonjour.
Bonjour RFI.
Alors c'est l'été dans l'hémisphère nord, des forêts qui brûlent en Suède. C'est dire l'état de sécheresse de contrées jusqu'ici épargnées. L'eau comme composante forte du changement climatique et son impact sur l'activité humaine. On le rappelle souvent, à l'origine de la guerre en Syrie, une sécheresse énorme de 2006 à 2011. Un exemple, le cas syrien, qui montre bien comment le changement climatique affecte les vulnérabilités matérielles, sociales et politiques des pays. Gérard Payen, quels sont aujourd'hui les enjeux liés à l'eau et quelles problématiques majeures selon les continents ou selon les hémisphères nord-sud? On affirme généralement que les enjeux sont sous-estimés. Gérard Payen.
Nous sommes plus de 7 milliards sur cette planète et bien évidemment chacun a des soucis qui sont relatifs à l'eau. Mais lorsqu'on regarde la totalité du globe, il y a 4 grands enjeux et 2 facteurs d'aggravation. Alors les 4 grands enjeux, c'est d'une part l'accès des populations à l'eau potable et à l'assainissement. Aujourd'hui, il y a environ 2 milliards de personnes qui n'ont pas d'eau potable, qui boivent de l'eau contaminée, c'est-à-dire plus d'une personne sur 4, et un nombre encore supérieur qui n'ont pas accès à un assainissement de base. Ça, c'est la problématique de l'accès des populations. Le deuxième enjeu, c'est la pollution de l'eau douce. Aujourd'hui, on estime que plus de 80% des eaux polluées par les activités humaines sont rejetées dans la nature sans aucun effort de dépollution. Le troisième grand enjeu, c'est celui des ressources en eau, c'est-à-dire des quantités d'eau douce disponibles. Il y en a beaucoup sur la planète. Mais chaque année, les hommes en veulent davantage. Et aujourd'hui, pour à peu près 30% de l'humanité, l'eau qui est utilisée est surexploitée. C'est-à-dire qu'on pompe dans les nappes souterraines davantage que les pluies y ramènent. Et le quatrième enjeu, très différent, ce sont les catastrophes liées à l'eau. Vous venez de parler de sécheresse en Syrie, mais il y a aussi toutes les inondations qui sont liées à l'eau et qui gênent énormément la vie humaine. Alors ces 4 grands enjeux existent depuis un certain temps. Malheureusement, ils sont pas en situation d'amélioration, mais ils sont fortement aggravés par 2 facteurs. L'un, ce sont plutôt les changements climatiques qui viennent par exemple aggraver la force, la puissance des inondations ou des sécheresses, mais c'est également la croissance démographique, la croissance de la population dans le monde qui s'exprime essentiellement dans les villes. Et cette croissance urbaine fait que les problèmes d'accès à l'eau, les problèmes de pollution, les problèmes de ressources sont chaque année plus difficiles.
Alors, je vais vous demander ici en studio de réagir et de commenter le panorama que vient de nous dresser Gérard Payen. Alors, c'est vrai, je rappelle quelques éléments déjà cités par Gérard. 80% des eaux usées intègrent l'écosystème sans être traitées ou utilisées. Et puis ce chiffre, 90% des catastrophes naturelles qui sont en lien avec l'eau. Patrice Fonladoza.
Oui, alors simplement, peut-être pour compléter sur cette question des enjeux, je pense que, et là Gérard va certainement pas d'ailleurs me désavouer, la question de l'assainissement est toujours cachée derrière cette question de l'eau potable. La réalité aujourd'hui, c'est que quand même 60% de la population dans le monde ne dispose pas de services d'assainissement qui soient gérés en toute sécurité. C'est quelque chose qu'on occulte complètement. Et puis, j'appuierai peut-être sur la deuxième chose qui a été citée par Gérard tout à l'heure, qui est effectivement la concentration urbaine, l'évolution démographique, et en particulier sur le continent africain, où en 2050, la population aura doublé et deux Africains sur trois vont vivre dans des villes, ce qui va évidemment accentuer les pressions de façon extraordinaire. Troisième point, peut-être le dernier, sur cette thématique, je pense qu'il faut aussi parler du recyclage des eaux, comme étant une solution, le recyclage des eaux usées comme étant une solution. Certains pays l'ont adopté, je pense à la Namibie, je pense bien sûr à Singapour de façon assez lourde, mais aussi au Moyen-Orient, où jusqu'à présent le recyclage était, j'allais dire, banni. Et il y a effectivement des taux de consommation dans cette partie du monde, au Moyen-Orient, je pense à Dubaï par exemple, en termes de consommation d'eau, c'est un record mondial. On est à 500 litres par personne et par jour, alors qu'en France, nous sommes entre 160 et 250 litres d'eau potable qui soit consommée par personne et par jour. En Afrique subsaharienne, pour vous donner cette échelle, c'est 10 à 20 litres par personne et par jour. Voilà, 500, 10, 160, on a des étirements absolument considérables d'une partie du continent à d'autres.
Des différentiels extrêmement importants. Alain Boinet.
Je me concentrerai sur la première caractéristique que Gérard Payen a signalée, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable. En tant que représentant de Solidarité internationale, notre priorité, c'est l'urgence humanitaire. Aujourd'hui, il y a plus de 68 millions de réfugiés dans le monde. Il n'y en avait que 45 millions en 2012. Il y a 136 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire d'après l'ONU cette année. Donc, toutes ces personnes ont besoin d'accès à l'eau potable, d'hygiène, d'assainissement notamment, mais pas seulement. Ça veut dire, par exemple, que quand, suite à des conflits intercommunautaires en Ituri, en République démocratique du Congo, dans la région de Bunia, vous avez 45 000 personnes qui fuient, 30 000 se réfugient chez des habitants, 15 000 dans des camps. C'est des gens qui arrivent démunis de tout. Et très vite, alors qu'ils viennent de petits villages, ils sont regroupés 30 000 plus 15 000, 45 000, ça fait une grande ville, qui pose des problèmes d'assainissement absolument considérables, mais aussi des problèmes d'accès à l'eau potable. Et là, il faut en toute urgence leur amener de l'eau potable, régler les problèmes d'assainissement et d'hygiène, parce que sinon, et c'est ce qui se passe partout, bien sûr, se développe ce qu'on appelle les maladies hydriques. Je rappelle, vous l'avez dit, qu'il y a environ 2 millions de personnes, notamment d'enfants de moins de 5 ans et d'adolescents qui meurent chaque année du fait des maladies hydriques. Ça veut dire 842 000 dans le monde chaque année qui meurent de diarrhée, 150 000 qui meurent du choléra. Pour prendre l'exemple du Yémen, qui malheureusement dans l'actualité, avant la guerre, 40% de la population n'avait pas accès à l'eau potable. Aujourd'hui, c'est plutôt 70%. Et il y a des centaines de milliers de cas de choléra aujourd'hui qui affectent le Yémen. Voilà, donc, on l'a dit, pratiquement 3 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, 4 500 millions qui n'ont pas accès vraiment à l'assainissement. Et je voudrais dire que pour apporter une réponse à ces personnes qui sont en danger, parce que le maladie hydrique, c'est un danger de mort, donc c'est une urgence, tout simplement, eh bien, nous agissons, nous, Solidarité internationale, avec d'autres ONG, dans le cadre aussi des Nations Unies, avec les clusters WASH, comme on dit, donc tous les acteurs de l'eau de l'assainissement se coordonnent entre eux, mais nous avons le soutien de donateurs privés, et nous en avons besoin, de collectivités, d'entreprises et de fondations, comme EDF, mais aussi la fondation Veolia, le soutien du ministère des Affaires étrangères, de son centre de crise et de soutien, de l'Union européenne, des Nations unies. Et puis sur le terrain, on agit bien sûr avec les populations, leurs représentants, les autorités locales, des ONG locales. Voilà, c'est tout ce tissu, ici et là-bas, qui fait qu'on peut répondre autant que possible, avec efficacité, à ses besoins.
Alors, on affirme généralement que les enjeux liés à l'eau ont longtemps été sous-estimés. Est-ce que vous partagez cela? En tout cas, avec tous les chiffres que vous nous avez donnés depuis le début de cette émission, on voit bien que les inquiétudes sont de plus en plus pressantes. Gérard Payen, comment évolue la prise de conscience des enjeux liés à l'eau?
Malheureusement, la plupart des enjeux dont nous venons de parler sont très mal perçus par l'opinion publique. Si je me concentre simplement sur la France métropolitaine, habituellement, les Français s'inquiètent de manquer d'eau, alors que la France est un pays tempéré et où il y a beaucoup d'eau. J'ai écrit un livre sur les idées reçues en matière d'eau, elles sont malheureusement très nombreuses, et la perception des vrais sujets fait vraiment défaut. Tous les enjeux que je viens de vous citer sont créés par l'homme, et Patrice Mondragosa a parlé de solutions, on parle de recyclage, il y a des solutions. Tous ces problèmes ont des solutions, nous les connaissons, elles peuvent être mises en œuvre, encore faut-il le vouloir. Et pour le vouloir, il faut que l'opinion publique en ait envie. Les problèmes d'accès à l'eau potable, c'est un problème d'organisation collective. Les problèmes de pollution, ce sont les hommes qui ont des activités qui rejettent des éléments polluants. Les problèmes de surexploitation de ressources, c'est la même chose. Ce sont les hommes qui pompent de l'eau. Et même les inondations aujourd'hui, les plus graves, sont liées au changement climatique, dont on sait que l'origine est humaine. Donc, vraiment, les hommes sont à la cause, à la source de tous ces enjeux, mais ils n'en prennent pas conscience. La perception est très lente. Alors, ce qui est, à mon avis, très important, c'est que dans la communauté internationale, jusqu'à une date très récente, on n'en connaissait qu'un. On ne connaissait que la problématique de l'eau potable, et encore, on l'a sous-estimé largement. Mais en 2015, il s'est passé un basculement. Il y a eu une grande réflexion sur les enjeux de l'humanité, la réflexion qui a conduit à ce qu'on appelle les objectifs mondiaux de développement durable. Et dans cette réflexion, tous ces grands enjeux ont été discernés, ont été mis sur la table et finalement sont apparus au grand jour. Ce qui fait, par exemple, que les questions de pollution, aujourd'hui, sont reconnues comme un des grands enjeux de l'humanité. Alors qu'il y a 4 ans, personne n'en parlait au niveau international.
Alors, entre la déclaration, les objectifs de développement durable, le constat, ce basculement qu'évoquait à l'instant Gérard Payen, il y a du passage de du constat à l'action. Est-ce que, Patrice Fonladosa, les choses avancent ?
Alors, on peut dire qu'elles avancent sur certains points, comme par exemple une meilleure prise de conscience des impacts des changements climatiques sur l'eau. On ne fait pas seulement qu'en parler, il y a effectivement un certain nombre d'acteurs qui se réunissent pour en mesurer les impacts et pour pouvoir essayer d'imaginer des solutions. Il y a aussi la deuxième, je dirais, pensée positive, c'est la nécessité d'une gestion plus économe des ressources. La notion d'économie sur la ressource en eau est devenue aujourd'hui quelque chose de parfaitement mesuré. D'ailleurs, on le voit très bien dans la consommation même des particuliers en Europe, qui non seulement a plafonné il y a à peu près une dizaine d'années, mais a commencé à décroître largement. Alors, c'est pas vrai partout, mais en tout cas en Europe, c'est le cas. Puis enfin, c'était d'ailleurs cité tout à l'heure par Gérard Payen en introduction, cette nécessité du développement de l'accès comme étant un vecteur à la fois d'équilibre et de développement. Maintenant, il y a des côtés très, très négatifs quand même, et je voudrais les rappeler. Le premier, c'est qu'il y a une très faible prise de conscience du volume d'investissement à réaliser pour maintenir et remplacer les réseaux. Ça, d'ailleurs, les chiffres, Marie-France Chatin, vous l'aviez cité tout à l'heure, il y a des chiffres qui sont absolument aberrants.
Alors, je ne les ai pas encore cités, mais je vais les citer, j'en profite tout de suite pour le faire. On en avait parlé avant de commencer l'émission. La France, donc, pardon, Patrice Fonladosa, je vous redonne la parole tout de suite, qui se trouve face à l'urgence de la nécessité de moderniser ses réseaux, canalisations, usines d'assainissement, un réseau qui est parfois vieux de 100 ans, dégradé surtout en milieu rural, avec des tronçons qui présentent même des risques sanitaires. On ne rénove actuellement en France que 0,6% des canalisations, rythme évidemment insuffisant. Le chantier à ce rythme durera 150 ans. La France est un exemple à part de pays où le financement des infrastructures est insuffisant, ou on n'est pas les seuls ?
Non, on n'est pas les seuls. Et simplement, je pense que ce qui est important, c'est de voir que la prise de conscience est faite. Et donc aujourd'hui, la mesure que vous donnez, par exemple, sur la centaine d'années, elle se mesure avec le temps de réaction actuel. La réalité, je pense, c'est que cette prise de conscience est en fait, la priorité donnée au financement des investissements va se remettre dans un ordre un peu plus cohérent. Donc on verra très certainement une accélération. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a une obsolescence des réseaux, ça c'est clair, parce qu'ils ont été construits il y a maintenant 50, 60, 70 ans, et que le taux de renouvellement a été largement négligé. C'est assez vrai en Europe. Mais c'est vrai dans d'autres pays du monde.
Alors là, on entre dans quelque chose d'éminemment politique. Cette absence de rénovation des infrastructures, si j'ai bien compris la problématique, la crise de 2008 a fait que les élus locaux n'ont pas voulu engager des dépenses qui se seraient répercutées sur les individus, sur la société, de façon à pas augmenter le prix de l'eau.
On arrive Marie-France, à la question du prix réel du traitement et de la distribution de l'eau et de la gestion des eaux usées. Cette notion du prix est quelque chose qu'il va falloir regarder de manière beaucoup plus objectivée que nous l'avons fait jusqu'à présent, où la tendance, pour des raisons qui sont, je dirais, parfois clientélistes, cette tendance de vouloir absolument baisser le prix de l'eau en négligeant en réalité les enjeux que le prix recouvre. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience un peu plus raisonnée et en tout cas plus objectivée sur cette nécessité. Donc la notion du prix va devenir centrale, très certainement, la notion du tarif, en tout cas, et du prix de l'eau, parce que ce n'est pas l'eau dont on parle, ce sont les services qui permettent d'avoir une eau propre et de pouvoir correctement la traiter.
Alors, il y a plusieurs choses à propos du prix. Le premier, c'est que le paiement d'un prix demeure une incitation forte à une utilisation économe de la ressource en eau. Je reste avec vous, Patrice Fondadosa, mais je n'ai pas oublié nos autres invités. Et parallèlement à cela, en France, le prix de l'eau est inférieur à la moyenne européenne. Il y a une explication, on retombe sur ce que vous évoquiez à l'instant, Patrice Fondadosa, une sorte de clientélisme ou...
Non, pas forcément, non, je pense simplement, il faut être plus pragmatique que ça. La construction des réseaux, l'investissement public tel qu'il a été fait, n'a pas été fait de manière, j'allais dire, strictement homogène entre les différents pays européens. Donc aujourd'hui, la résultante du prix dans lequel nous sommes, elle est évidemment celle d'une volonté politique, mais elle est aussi celle d'une réalité économique, c'est qu'effectivement, nos réseaux sont aujourd'hui assez largement amortis. Et donc, l'effort d'investissement, il est devant nous. Il n'est pas encouru par les tarifs actuels.
Alors, la question de l'eau, Alain Boinet, vous en savez quelque chose avec Solidarité Internationale. Elle est évidemment liée, puisqu'on évoquait les questions d'argent, les questions de prix, à la pauvreté.
Alors, elle est liée à pauvreté, mais vous souleviez la question... savoir tout à l'heure si nous étions dans les temps, si on avait pris conscience, si on réagissait. Je crois qu'à la fois, il y a eu des progrès considérables avec les objectifs du millénaire pour le développement, et à la fois, on est toujours en retard. Et parti comme on est parti, en tout cas dans les pays les moins avancés, sans même parler des situations de crise humanitaire, on ne sera pas rendez-vous des ODD, objectifs de développement durable, en 2030. Donc il faut vraiment se reprendre. D'autant que les statistiques, dans beaucoup de pays, manquent. Donc, que faire quand on n'a pas de statistiques? On a peu de difficultés dans le monde occidental avec ça. Bon, ce que je voudrais dire, par exemple, puisqu'on prenait les cas de la démographie, qui est un des principaux soucis du site que j'anime, défi humanitaire, vous prenez le cas du Sahel. Le Sahel va doubler de population dans les 20 ans, passer grosso modo de 100 à 200 millions d'habitants. Dans le même temps, la capacité, la ressource en eau, depuis 20 ans, a baissé de 40%. Si vous prenez un pays comme le Mali, qui sont 19 millions d'habitants, ils vont passer à 45 millions. Et dans le même temps, les infrastructures en eau manquent totalement, ce qui veut dire que ça a des conséquences sur la malnutrition, notamment des enfants. Il meurt chaque année environ 3 millions d'enfants du fait de malnutrition. Et on sait que la malnutrition est liée à l'eau. C'est-à-dire que quand vous avez un enfant malnutri, évidemment, s'il boit de l'eau non potable et qu'il a la diarrhée, comment il va sortir sa malnutrition? Donc de toute façon, il est mort. Donc à la fois, il faut... les sauver dans des centres de nutrition, et dans lesquels il y a de l'eau potable, de l'hygiène et de l'assainissement. Et quand les parents repartent avec les enfants qui ont été sauvés, il faut leur donner un kit d'hygiène, de façon à ce qu'ils ne retombent pas dans la diarrhée, et donc dans la malnutrition, et donc dans la mortalité. Et donc, quand vous avez le Sahel qui manque d'infrastructures avec une capacité réduite en eau, en tout cas qui perd de la capacité d'accès à l'eau, avec une population qui augmente, on va se retrouver face, et dans des délais très très courts, et dans des zones où la gouvernance est problématique et où on est face à des rébellions, y compris à des mouvements djihadistes, on a intérêt à s'en occuper sérieusement, massivement et intelligemment, parce que ça, c'est vraiment des bombes, non seulement démographiques, mais des bombes tout court, à retardement.
Alors ça, c'est lié aussi... Gérard Payen.
Oui, sur la question de pauvreté, parce que vous avez dit, est-ce que c'est lié à la pauvreté? Je veux dire deux choses à cet égard. C'est pas parce qu'un pays est plus pauvre qu'un autre que sa population a un plus mauvais accès à l'eau potable. Aujourd'hui, on remarque que les priorités politiques, les priorités budgétaires suivant les pays varient. Et en Afrique, par exemple, il y a des pays qui consacrent deux fois plus d'argent à la question de l'eau potable que leurs voisins, en proportion de leur richesse nationale. Et bien évidemment, dans ces pays, les gens en sont mieux lotis. Donc il y a vraiment une question de priorité politique. Et puis l'autre aspect des choses que je voudrais dire, c'est que, il est bien connu, mes collègues le savent, dans les villes qui sont en croissance rapide, beaucoup de gens habitent dans des bidonvilles. Et s'ils ne reçoivent pas un service public d'eau potable, ils sont obligés d'acheter de l'eau à des vendeurs ambulants, à des camions citernes, à des solutions alternatives, qui coûtent toujours beaucoup plus cher que les solutions collectives.
Alors Gérard Payen,
je propose... les pauvres payent plus cher aujourd'hui.
On développera cette notion de pauvreté, si vous le voulez bien, de façon à ce que vous ayez plus de temps. Dans la deuxième partie de l'émission, on retrouve nos invités Gérard Payen, Patrice Fondadosa et Alain Boinet dans quelques instants.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'eau. Nous retrouvons nos invités. Gérard Payen par téléphone, ancien conseiller pour l'eau et l'assainissement du secrétaire général des Nations Unies. Patrice Fonladosa, président du think tank Ressources, cercle de réflexion sur les problématiques d'accès aux services essentiels dans les pays en développement, directeur de l'ouvrage Eau, énergie et autres services essentiels, plaidoyer pour une approche intégrée, paru aux éditions Descartes et compagnie. Et Alain Boinet, fondateur de Solidarité Internationale, une ONG spécialisée dans l'accès à l'eau et l'assainissement, dont je signale par ailleurs le site internet défishumanitaire.com. Nous avons terminé la première partie de l'émission sur le lien entre pauvreté et accès à l'eau. Et Gérard Payen, ça s'écrivait en faux par rapport à cette relation de cause à effet, en soulignant, Patrice Fonladosa, qu'il s'agissait davantage de questions de volonté politique et de priorité donnée donc à cette question de l'eau.
C'est tout à fait illustré par les faits. Vous avez un pays qui n'est pas considéré comme étant le plus riche d'Afrique subsaharienne, le Niger, qui aujourd'hui a un taux de couverture de sa population qui est important. Pour quelle raison? Je vais vous citer deux exemples. Avec le Niger et avec un autre pays, la priorité de la part des pouvoirs publics, c'est-à-dire par le chef de l'État et les membres du gouvernement, a été donnée. Et elle est, entre guillemets, infaillible dans le temps sur la priorité de l'accès à l'eau. Aujourd'hui, le président Issoufou a toujours déclaré que, effectivement, c'était l'une de ses priorités majeures. Et il a, d'une certaine manière, cherché à organiser, un peu sanctuariser ce domaine de l'eau potable, parce qu'il avait conscience et qu'effectivement, c'était une demande et un besoin absolument essentiel pour sa population, qui est une des plus fortes en termes de progression, en termes de natalité au monde. Voilà. Il y a un deuxième exemple aussi dans le temps, moi, que j'ai trouvé très remarquable, c'est la politique dans le domaine de l'eau et de l'énergie d'ailleurs, qu'a mené le Maroc depuis maintenant très longtemps, sous l'impulsion d'un certain nombre de mesures prises par Sa Majesté et son père, prédécesseur. Donc il y a une vraie continuité en fait dans la volonté politique et dans la mise en œuvre de programmes d'accès à l'eau pour l'ensemble des populations. Donc moi je suis 100% d'accord avec Gérard, c'est une question de priorité et de volonté politique continue.
Un problème donc de gouvernance. Alain Boinet.
Alors moi je suis pas optimiste mais combatif, parce que c'est la seule solution face aux problèmes qu'on évoque, mais c'est pas gagné d'avance. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, je constatais dans les pays où nous intervenons des tensions liées à la question de l'eau, par exemple entre les agriculteurs et les nomades. On l'a vu au Darfour, mais on le voit partout. Ouais. J'ai pas de certitude, mais je commence à me poser la question de savoir si vraiment on n'est pas en train d'aborder un point de bascule sur cette question de l'accès à l'eau. Je prendrai juste deux, trois exemples rapidement. Il y a la construction de ce très grand barrage de la Renaissance par l'Éthiopie sur le Nil, en désaccord relatif avec l'Égypte, malgré le traité de 1959. L'eau du Nil, ça représente 97% des besoins en eau de l'Égypte. Il y a une tension aujourd'hui entre l'Égypte et l'Éthiopie, notamment sur la question du remplissage de ce barrage. Les Éthiopiens veulent le remplir en 4 ans, les Égyptiens parlent de 8 à 10 ans. Je rappelle d'ailleurs que la question de la démographie est bien là, puisque la population éthiopienne va passer de 105 millions d'habitants en 2017 à 191 millions d'habitants en 2050, et que le besoin en énergie électrique croît de 30% tous les ans. Simplement, dans le delta du Nil, enfin en aval, moins 2% d'eau, ça veut dire 200 000 arpents de terres non cultivées. 200 000 arpents, c'est 100 000 familles. 100 000 familles, c'est à peu près 1 million de personnes. Si on prend le cas de l'Inde, on commence à avoir des émeutes sur la question de l'eau. Pourquoi? Parce que la moitié de la demande, d'après les estimations qui sont faites, ne seront pas satisfaites dans le domaine de l'eau en 2030 en Inde. Il y a un épuisement des nappes phréatiques, parce que 80% de l'eau est pompée dans les nappes phréatiques. Vous avez maintenant des conflits d'usagers entre les industries, les agriculteurs, entre les zones rurales, les zones urbaines, et pourquoi pas entre les propriétaires et les basses castes. Et on pourrait prendre des exemples comme ça. Rappelons-nous ce qui s'est passé, je veux dire, au début de l'année au Cap, en Afrique du Sud, dans une ville de 4 500 000 habitants, qui a été rationnée en eau du fait de la sécheresse. Enfin, la sécheresse, ça fait partie de notre monde et du réchauffement climatique. En tout cas, ça en accentue les conséquences. Et on a créé 200 points d'eau, avec 25 litres d'eau par personne et par jour. Et on est au Cap, en Afrique du Sud, dans un pays développé qui, en 1975, avait eu la prescience de dire si on dépasse 80 millions d'habitants en Afrique du Sud, on ne pourra plus répondre à leurs besoins en eau, et donc il faut qu'on limite la natalité. Le développement est une priorité, mais la démographie va être une dimension majeure du développement, de l'absence de développement et toutes les conséquences que ça entraîne.
Alors la question du Nil, on en a déjà beaucoup parlé sur RFI et d'autres bassins transfrontaliers d'ailleurs, ces derniers mois, avec la question effectivement que vous évoquiez à l'instant, Alain Boinet, de rapidité de remplissage de ce fameux barrage de la Renaissance qui voudra dire, signifier pour l'Égypte des flux d'eau largement moindres. En tout cas, il y a des gens au Proche et Moyen-Orient qui s'occupent de ces questions. Je pense notamment à Fadi Comer au Liban, qui a développé cette notion d'hydrodiplomatie, avec ce constat qui veut que 2/3 des fleuves transfrontaliers dans le monde n'ont pas de schéma de coopération. C'est dire combien l'urgence est là aussi. Je me tourne vers vous, Gérard Payen, sur la question de savoir le rôle de l'ONU dans tout cela. Depuis 2010, l'accès à l'eau potable est un droit fondamental. Il est évident que la mise en œuvre de ce droit à l'eau comporte des exigences techniques et économiques, on l'a dit, on l'a évoqué. Quelle place pour l'ONU dans ces questions liées à l'eau, Gérard Payen ?
L'ONU, c'est le club des États. Et l'ONU a deux rôles. D'une part, c'est l'endroit où les États peuvent se parler avec des intermédiaires. Et les questions transfrontalières que vous venez d'évoquer peuvent très bien se discuter à l'ONU. C'est un endroit neutre où les pays peuvent discuter entre eux. Mais l'ONU, c'est aussi le club, la collectivité, le club fermé des États. Et ce qui apparaît comme un consensus à la fois de préoccupation et d'action a bien entendu beaucoup plus de chances de se réaliser que ce qui est complètement ignoré à l'ONU. Or, en matière d'eau, jusqu'à il y a très peu de temps, il n'y avait que les problématiques d'eau potable qui apparaissaient, qui étaient discutées. Aujourd'hui, depuis 2015, la problématique de l'eau potable a changé d'échelle, à la fois parce que l'ONU, qui produit les instruments de mesure au niveau mondial, a réussi à montrer que le nombre de personnes qui n'avaient pas d'eau potable est 3 fois plus important que ce qu'on croyait jusque-là. Donc on a changé d'échelle. Et puis, par ailleurs, les autres problèmes sont apparus sur la scène. La pollution des eaux, dont on ne parlait jamais, maintenant est un problème. Des questions de surexploitation sont devenues un problème, etc. Donc l'ONU est un endroit où les sujets apparaissent. Alors, si je prends la pollution des eaux, au niveau mondial, c'était l'ignorance totale. Il y a encore 5 ans, il n'y avait pas un seul spécialiste aux Nations Unies qui s'occupait de pollution des eaux. Aujourd'hui, l'ONU fait d'énormes efforts pour essayer de rendre visible le problème, c'est-à-dire pour mesurer les flux d'eau usée qui sont épurés, pas épurés. Il va falloir plusieurs années pour y voir à peu près clair. Mais lorsque l'ONU met le phare sur quelque chose, les États sont obligés de réagir, parce que leur opinion publique voit bien qu'il se passe un problème. Je pourrais prendre l'exemple de la France, par exemple. Les objectifs de développement durable s'appliquent à tous les pays, et en France, on s'est posé la question de savoir si les différents objectifs précis seraient atteints en 2030 comme prévu pour la France. Eh bien, on s'est aperçu que nous avions quelques problèmes qui étaient peu visibles d'accès à l'eau, essentiellement dans certains territoires d'outre-mer. Donc, l'accélérateur est en train d'être mis sur ces questions. Et je voudrais dire qu'au niveau mondial, le fait que l'ONU soit l'instrument de mesure de ce qui se passe, je dirais, est très utile pour regarder les choses de façon raisonnée, ne pas se laisser emporter par un négativisme ou au contraire un optimisme exagéré. Mais si je prends la problématique de l'eau potable, par exemple, on sait que les gouvernements font énormément de choses. Au niveau mondial, sur les 15 dernières années, 100 millions de personnes ont eu accès à l'eau potable chaque année, c'est-à-dire 1,5 milliard. Ce qui veut dire que sur les personnes qui ont de l'eau potable aujourd'hui, il y en a plus d'une sur 4 qui n'existaient pas il y a 15 ans. Donc il se passe énormément de choses, ce sont des chiffres énormes. Par contre, quand on regarde de façon un peu plus fine, on s'aperçoit que dans la moitié rurale du monde, les choses progressent, mais dans la moitié urbaine du monde, là, il y a une régression parce que la course-poursuite entre la croissance urbaine et la croissance des services publics est en train d'être perdue par les services publics. Donc, les gouvernements font beaucoup de choses, mais il faut qu'ils accélèrent un peu plus pour pouvoir compenser la croissance urbaine.
Alors, sur la croissance urbaine, Patrice Fonladosa, il y a un manque patent d'anticipation ?
Je pense pas qu'on puisse parler de manque patent d'anticipation. Simplement, le constat que fait Gérard est évidemment fondé sur les données dont on dispose aujourd'hui, ces données prospectives qui font que de plus en plus, les hommes se concentrent pour des raisons qui soient à la fois de sécurité, d'économie, d'emploi, vers des centres urbains. Qu'un certain nombre de bailleurs de fonds, un certain nombre même de gouvernements ont tenté de fixer, comme on dit, des populations dans le rural et que malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et que on est en train de revenir, déjà d'ailleurs depuis maintenant plusieurs années, sur cette tentative de fixation des populations dans les campagnes. Et donc il faut au contraire accompagner par des schémas directeurs et par donc des études précises l'aménagement des villes, et ça devient un sujet éminemment complexe. Je crois qu'il y a une chose, il y a un progrès que je trouve qui a été important. Il y a eu cette espèce de volonté de vouloir fixer ces populations, d'ailleurs sans vraiment leur demander leur avis. Et la réalité, c'est que les gens ont continué à bouger et que aujourd'hui, ce phénomène est accepté comme étant un phénomène normal. Et on accompagne plutôt les déplacements des populations et leur nouvelle sédentarisation plutôt que de chercher, à organiser des infrastructures, d'ailleurs extrêmement coûteuses, en campagne.
Je veux dire qu'il est très difficile pour une municipalité, un gouvernement, d'anticiper la croissance urbaine. On peut le faire techniquement, c'est-à-dire faire un scénario de croissance de population. Mais construire des infrastructures qui seront utilisées dans 10 ans, ça prend 10 ans, ce qui est beaucoup plus long que la durée d'un mandat politique. Donc ça n'a pas d'intérêt, sauf à alourdir le budget immédiat de quelqu'un qui a été élu. Et en plus, qui va payer ? Les personnes qui habitent la ville aujourd'hui n'ont aucune envie de payer pour ceux qui habiteront la ville plus tard. Donc, c'est pas facile à organiser. Il faut beaucoup de volonté et beaucoup de vision de l'avenir pour anticiper sur la croissance urbaine. Au Cap, la population a augmenté d'un tiers en 10 ans. Bah, il n'est pas tout à fait étonnant qu'il y ait eu un problème énorme au début de cette année.
Alain Boinet.
Je crois qu'on est à nouveau, bien sûr, confronté à la démographie. Parce qu'effectivement, on a beaucoup progressé, comme Gérard Payen le soulignait. C'est heureux que les volontés, que la conscience, finalement, des besoins et des risques soit là, immobilise des acteurs. Mais si on prend le cas du bassin du Nil, puisqu'on en parlait, il y avait 300 millions d'habitants en 2000, il y en aura le double en 2030 et 1 milliard en 2050. Donc, on est sur des changements d'échelle absolument faramineux. 54% de la population est citadine aujourd'hui, mais on évoque entre 60 et 90% de citadins en 2100. Donc on est sur des changements dans des temps très très courts. Et si on progresse, la question c'est est-ce qu'on progresse assez vite, est-ce qu'on progresse assez bien? Et c'est tout juste urgent, parce que là, sur des quantités humaines de cette importance, encore une fois, si les gens ne trouvent pas chez eux ce qu'il leur faut pour vivre, ils vont se mettre en marche. Et ils iront jusqu'où il faut aller pour répondre à leurs besoins vitaux. Ça c'est une règle immuable qu'on a connue. D'ailleurs, au 18e et 19e siècle, 50 millions d'Européens sont allés vers les États-Unis d'Amérique pour ces raisons, la pauvreté en Irlande, etc. Et ça se produira ailleurs, naturellement, et dans tous les sens. Et jusqu'en Europe. Quand on voit l'Afrique, si vous voulez, il y a une étude de l'Institut Gallup sur l'ensemble du continent africain qui statue que 40% des jeunes Africains de 15 à 25 ans et 30% des diplômés veulent quitter leur pays, veulent quitter l'Afrique pour trouver fortune ailleurs. Donc si vous voulez, c'est désespérant pour l'Afrique de voir perdre et sa jeunesse et ceux qui sont formés, à grand prix d'ailleurs. C'est quand même pas un signe d'espoir, et on a une responsabilité pour les appuyer, les accompagner, les aider, être avec eux et éviter quand même ces drames.
Alors, pour conclure, est-ce que vous êtes les uns les autres optimistes, pessimistes ? Est-ce que le 21e siècle finira par être celui de la grande coopération stratégique entre États, les sociétés, les entreprises, les pouvoirs publics, les citoyens et les acteurs privés afin de transcender la menace liée à l'eau ? Est-ce qu'on est dans un rêve absolu quand on évoque toutes ces coopérations ? Je commence avec vous, Gérard Payen.
Pour moi, tous les problèmes liés à l'eau sont solubles. Et la seule question, c'est est-ce qu'on le veut, est-ce qu'on veut les résoudre ou pas. Ça, c'est un problème politique et c'est un problème d'opinion publique. Donc les médias ont un rôle à jouer, de façon à ce que l'opinion publique soutienne les décisions politiques. Mais c'est très difficile.
Patrice Fonladosa.
Moi, je voudrais noter quand même comme un vrai signe d'optimisme la capacité exceptionnelle de l'homme à s'adapter. Et aujourd'hui, moi, je suis absolument convaincu que la capacité d'innovation Gérard Payen le disait tout à l'heure, n'a pas vraiment de problème technique pour résoudre cela. La capacité d'innovation est encore largement à découvrir devant nous, à la fois les pouvoirs publics, mais aussi les entreprises y travaillent. Je pense que j'ai des vraies raisons de penser à l'optimisme, parce qu'on va changer de modèle. Aujourd'hui, les modèles vont être beaucoup plus dans la co-construction avec l'ensemble des parties prenantes que sont les autorités, qu'elles soient publiques ou privées, les actionnaires, les salariés, les fournisseurs et la société civile. Le plus important, c'est la prise de conscience. Et je trouve que de ce point de vue-là, il y a d'immenses progrès qui ont été faits, relativement récents, mais qui donnent vraiment des raisons d'espérer.
Prise de conscience, Alain Boinet.
Alors, prise de conscience, d'ailleurs, dans les objectifs du développement durable concernant l'eau, l'hygiène et l'assainissement, on parle d'utilisation rationnelle des ressources en eau, de gestion intégrée des ressources en eau, de protéger et restaurer les écosystèmes, mais aussi la participation des populations locales. Là, il y a des marges de progrès considérables à faire, notamment dans l'économie de l'eau. Parce qu'en Inde, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est la révolution verte des années 70-80. Je veux dire, l'eau bon marché, l'eau facile, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, il faut complètement changer de culture et d'approche. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que il y a cette question de la démographie qui doit être, bien sûr, anticipée. Il y a cette question de la gouvernance locale, de la gouvernance mondiale. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a des recherches qui sont faites sur la captation des nuages ou sur la captation des brouillards pour générer des surplus de l'eau, y compris dans les zones sèches et à température élevée. Donc, il y a des signes d'espoir. Et de toute façon, à la fois, il faut investir dans cette voie de réponse aux besoins croissants. Et à la fois, il faut répondre aux besoins des gens les plus démunis, les plus menacés aujourd'hui. Et en tout cas, c'est l'objectif de l'aide humanitaire d'urgence que de le faire en anticipant l'avenir pour répondre aux besoins croissants qui sont là et que nous connaissons. C'est une question de volonté, effectivement.
Gérard Payen, je voudrais revenir vers vous. Vous nous expliquez à l'instant que tous les problèmes liés à l'eau étaient solubles et que la question essentielle, c'était celle de l'opinion publique. Est-ce que ça n'est pas un peu botté en touche?
Je ne crois pas. Je ne crois pas, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque je rencontre des Français, la première question qu'ils me posent, c'est quand va-t-on manquer d'eau ? Ils devraient se poser d'autres questions, parce que les problèmes en France sont des problèmes, on en a parlé tout à l'heure, de renouvellement du réseau, d'accès à l'eau potable dans certains territoires, ou de pollution des nappes. Donc ils se trompent de sujet, et c'est le cas pour, je dirais, pour beaucoup de monde, au sens de beaucoup de personnes, qui croient que les problèmes de l'eau sont des problèmes qui viennent de la nature, alors qu'en fait, l'essentiel de ces problèmes sont créés par l'homme et ont des solutions que l'homme peut mettre en œuvre.
Alors, juste rapidement qu'on comprenne, les solutions, quelques exemples, Gérard Payen.
Alors, les solutions, il y a des villes qui arrivent très bien à alimenter en eau potable toute leur population, malgré des croissances très importantes. Il y en a qui le font. En termes de ressources en eau, eh bien, il y a des villes qui sont capables d'anticiper, de discuter avec les territoires agricoles qui les entourent pour aller mobiliser plus d'eau pour leur population, sans pour autant que des pénuries apparaissent. Localement, on sait très bien, parce qu'on le voit, qu'il y a des solutions, mais elles ne sont pas mises en œuvre partout. Les pollutions, ben, en France, l'essentiel de la pollution rejetée par les activités humaines est dépolluée. Mais c'est récent.
Patrice Fonladosa, quelques
Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que je crois que ça fait partie évidemment des solutions, cette co-construction avec l'ensemble des parties prenantes du secteur, quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire auparavant et qui est évidemment essentiel. Donc le dialogue et la responsabilisation sur chacun ce qu'il sait faire entre les actionnaires, les autorités, les salariés, etc. Je pense qu'il y a peut-être une deuxième chose à dire. Le temps se raccourcit quand même beaucoup et donc il faut s'adapter, y compris en termes contractuels. Les grandes concessions de 20 ou 25 ans, à quelques exceptions près, lorsqu'il s'agit d'investissements extrêmement longs, je crois qu'il va falloir imaginer qu'aujourd'hui, les relations de contrat, que vous soyez autorité publique ou privée, peu importe, elles sont beaucoup plus courtes et elles sont basées sur la performance et sur les économies réalisées. Et enfin, pour terminer, je pense que quand on crée de la valeur, il faut la partager. Ça, c'est un élément qui est devenu absolument criant et essentiel.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Gérard Payen, qui était avec nous par téléphone, ancien conseiller pour l'eau et l'assainissement du secrétaire général des Nations Unies. Patrice Fonladosa, Badoza, président du think tank Ressources, cercle de réflexion sur les problématiques d'accès aux services essentiels dans les pays en développement, directeur de l'ouvrage Eau, énergie et autres services essentiels, plaidoyer pour une approche intégrée, paru aux éditions Descartes, et Alain Boinet, fondateur de Solidarité Internationale, une ONG spécialisée dans l'accès à l'eau et l'assainissement, dont je signale le site internet défishumanitaires.com. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte.